VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du mardi 20 octobre 2015. Eric Manilakiza et Morgane Guiriek à la présentation au sommaire ce soir. Morgane.
Violence au Congo, Brazzaville, au moins 2 morts dans des heurts entre forces de l'ordre et adversaires du référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016.
En Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo maintient son appel pour le boycott de l'élection du 25 octobre, c'est dimanche.
Des dizaines de milliers de civils fuient la ville syrienne d'Alep que l'armée de Bachar al-Assad tente de reprendre rebelle avec l'aide de l'aviation russe.
Au Canada, le Parti libéral de Justin Trudeau a remporté une victoire éclatante aux élections législatives, mettant un terme à une décennie de pouvoir conservateur.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
Journée de violence au Congo-Brazzaville. Malgré l'interdiction des rassemblements d'opposition, des protestataires sont sortis dans les rues ce matin. Des heurts ont ainsi éclaté entre forces de l'ordre et opposants au référendum constitutionnel qui pourrait permettre au président congolais Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. La police a ouvert le feu à plusieurs reprises. Au moins 2 personnes sont mortes, nous dit Nguela Ngoussou, notre correspondant sur place.
Ok, un sujet sur lequel on aura peut-être l'occasion de revenir quand on aura réglé nos soucis techniques. L'armée ougandaise a entamé son retrait du Soudan du Sud voisin dans le cadre de l'accord de paix conclu en août entre les deux parties en conflit depuis près de 2 ans. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui le gouvernement sud-soudanais.
3 islamistes armés ont été tués mardi matin par l'armée algérienne dans le département de Bourmedès, 50 km à l'est d'Alger, a indiqué le ministère de la Défense. Des éléments d'Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, opèrent dans cette localité. 3 fusils mitrailleurs de type Kalachnikov, des munitions et 9 téléphones portables ont été récupérés au cours de cette opération qui se poursuivait, a précisé la même source.
Et je vous le disais à l'instant, l'armée ougandaise a entamé son retrait du Soudan du Sud voisin. Écoutons le papier de Jacques Aristide.
L'Ouganda avait déployé des troupes au Soudan du Sud en appui au régime du président Salva Kiir quelques jours après le début du conflit en décembre 2013 avec son ancien vice-président Riek Machar. Selon le porte-parole du gouvernement sud-soudanais, tel que le rapporte l'AFP, les troupes ougandaises ont quitté Bor, ville stratégique au nord de Djouba, pour se replier sur la capitale et se regrouper avec les autres forces ougandaises avant de regagner l'Ouganda. La démilitarisation de Djouba, toujours restée aux mains des forces gouvernementales afin d'y permettre le retour de l'ex-vice-président Riek Machar, est un des éléments clés de l'accord de paix conclu entre les deux rivaux sous l'égide du bloc régional IGAD. Les soldats ougandais devraient être remplacés à Djouba par une force neutre, tandis que l'armée devrait regagner des casernes en périphérie de la capitale.
Jacques Aristide, le Conseil de sécurité de l'ONU a brandi une nouvelle fois mardi la menace de sanctions contre les fauteurs de troubles et les responsables de violences en République centrafricaine et a réclamé des élections avant fin 2015. Dans une déclaration unanime adoptée mardi sur proposition de la France, les 15 pays membres ont rappelé que certaines des attaques contre les civils et les casques bleus de la MINUSCA, mission de l'ONU en RCA, peuvent être assimilés à des crimes de guerre passibles à la Cour pénale internationale.
Le président sortant Alassane Ouattara, grand favori de la présidentielle du 25 octobre en Côte d'Ivoire, vise une victoire dès le premier tour lors d'un scrutin décrié par l'opposition et qui peine à mobiliser les électeurs. Le 6 octobre, Amara Issi, ex-ministre des Affaires étrangères, s'est retiré de la course à la présidence pour ne pas se rendre complice d'une mascarade électorale. Selon ses propos, il a été suivi quelques jours plus tard par Mamadou Coulibaly, ancien président de l'Assemblée nationale.
Et la sous-secrétaire d'État à la sécurité civile, la démocratie et les droits de l'homme, Sarah Siwor, est en République démocratique du Congo jusqu'au 24 octobre 2015. À l'ordre du jour, les questions bilatérales et régionales sur la nécessité d'assurer la tenue d'élections crédibles, pacifiques dans les temps, de lutter contre les violences sexuelles et les violences basées sur le genre, de renforcer l'état de droit et de mettre fin à la suspension de visas de sortie en faveur des enfants adoptés par des citoyens étrangers. Et Madame Suor se rendra également dans l'est du Congo pour rencontrer notamment les victimes de violences basées sur le genre.
Le rappeur angolais Louati Beirao, en grève de la faim depuis le 21 septembre, et 14 autres personnes poursuivies pour rébellion contre le président José dos Santos, seront jugées du 16 au 20 novembre à Luanda. C'est ce qu'a annoncé aujourd'hui Amnesty International.
Et en Afrique du Sud, Morgan, le champion paralympique Oscar Pistorius, libéré de façon anticipée lundi soir, c'était hier, a passé sa première nuit hors de prison dans la maison de son oncle où il a été assigné à résidence. Presque un an après avoir été condamné à 5 ans de prison pour avoir tué sa compagne en 2013. En 2012 à Londres, le Sud-Africain Oscar Pistorius est devenu une icône mondiale, premier champion handicapé à s'aligner en athlétisme aux côtés des valides lors de Jeux olympiques.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les frappes russes ont tué 370 personnes, 243 rebelles et 127 civils depuis le début de l'intervention de Moscou dans le conflit le 30 septembre dernier. C'est ce qu'a affirmé aujourd'hui une ONG syrienne. On fait le point avec Lucie Lamont.
Les raids russes ont frappé plusieurs provinces du pays, dont celle de Raqqa, au nord de la Syrie, qui est le bastion du groupe État islamique. Ils ont surtout visé les provinces où les forces du régime mènent des offensives contre des groupes rebelles et où l'État islamique n'est pas présent. Parmi les 127 civils tués, l'Observatoire syrien des droits de l'homme compte 36 enfants et 34 femmes. Moscou affirme intervenir dans le conflit pour venir en aide au régime de Bachar al-Assad, assurant que ses forces visent l'État islamique et d'autres groupes terroristes comme le Front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda. Mais les Occidentaux accusent la Russie de se concentrer sur des rebelles qualifiés de modérés pour appuyer le régime en difficulté. Les frappes aériennes russes en Syrie démontrent que la Russie est prête à répondre de manière adéquate et efficace aux menaces terroristes et à n'importe quelle menace, a déclaré le président Vladimir Poutine aujourd'hui.
C'est dans ce contexte que l'OTAN s'inquiète du risque d'un incident aérien en Syrie entre la Russie et la coalition internationale menée par les États-Unis qui opèrent séparément et poursuivent des objectifs différents. C'est ce qu'a déclaré Alexander Verschbau, secrétaire général adjoint de l'Alliance Atlantique.
Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, a pressé les dirigeants israéliens et palestiniens d'agir vite pour arrêter une dangereuse escalade des violences. C'était au cours d'une visite surprise en Israël aujourd'hui. Idrissa Seydoudia.
S'adressant à la presse lors d'une rencontre avec le président israélien Reuven Rivlin, le secrétaire général des Nations Unies a déclaré « Si nous n'agissons pas rapidement, la dynamique sur le terrain ne va faire qu'empirer ». Ban Ki-moon a ajouté « Lors de mes rencontres aujourd'hui et demain avec les dirigeants israéliens et palestiniens, j'appellerai chacun à entreprendre des efforts concertés pour limiter les incidents de part et d'autre. Pour l'avenir de nos enfants, nous devons revenir de ce dangereux abîme », a-t-il encore dit, en évoquant la paralysie actuelle de l'effort de paix et en réaffirmant l'attachement de l'ONU à une solution à deux États, israéliens et palestiniens, coexistant en paix. Aujourd'hui, un Palestinien a été tué et 5 blessés dans les affrontements avec des soldats israéliens à l'est du territoire, près de la barrière de sécurité qui enferme la bande de Gaza, annoncent les services de secours palestiniens.
Conflit en Ukraine, l'armée et les séparatistes pro-russes débutent aujourd'hui le retrait des chars et d'autres armes dans la région séparatiste de Donetsk. Un processus similaire vient d'être achevé dans la région rebelle voisine de Lugansk.
Bousculade au pèlerinage de la Mecque. Le bilan s'est encore alourdi. On compte au moins 1958 morts, dont 76 Camerounais, 72 Nigériens, 61 Sénégalais, 60 Maliens, 52 Tchadiens, 52 Ivoiriens, 52 Béninois, 22 Burkinabés et 1 Burundais, selon des chiffres officiels fournis par les différents pays. À noter que de nombreux pèlerins sont toujours portés disparus.
Et présidentielle américaine, Hillary Clinton creuse l'écart avec son principal concurrent aux primaires démocrates, Bernie Sanders. D'après un sondage NBC News, Wall Street Journal, l'ancienne secrétaire d'État est créditée de 49% des intentions de vote contre 29% pour le sénateur du Vermont.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Nathalie Barge.
Au Burkina Faso, la commission d'enquête parlementaire sur la fraude et l'impunité fiscale a recouvré la somme de 4,9 milliards de francs CFA, rapporte l'APA, citant le ministère des Finances. Le manque à gagner global est de près de 400 milliards de francs CFA pour les trois dernières années. La commission recommande, entre autres, la poursuite administrative ou pénale notamment des agents publics et des banques mises en cause par l'analyse du portefeuille des chèques impayés du Trésor. En Guinée, le président du groupe organisé des hommes d'affaires s'est dit solidaire de la décision de certains commerçants de fermer leurs magasins tant qu'ils ne seront pas dédommagés des pertes causées par les violences préélectorales. Chérif Abdallah a fait part de sa préoccupation dans une radio locale sur les actes de vandalisme et de pillage systématique contre les commerces lors de contestations politiques en Guinée. La zone franche de Tanger au Maroc a été classée meilleure zone franche 2015 en Afrique par FDI Intelligence, indique la plateforme industrielle Tanger Med, citée par la Nouvelle Tribune. Le classement annuel compare près de 80 zones franches. Tanger Free Zone fait partie de Tanger Med Zone, qui comprend plus de 650 entreprises en activité, notamment autour des filières de l'automobile, l'aéronautique, le textile et divers services.
Voilà pour la Minute Éco. Merci Nathalie.
Regard sur les stades avec Timothée Donangmaï. Bonsoir Tim.
Bonsoir Eric.
Deuxième journée de la Coupe du Monde des moins de 17 ans au Chili avec deux équipes africaines en lice ce mardi.
Et oui Eric, la Guinée qui a tenu tête à l'Angleterre durant le week-end croisera le fer avec la République de Corée, leader dans le groupe B, à la faveur de sa victoire sur le triple champion brésilien. Autre affiche avec une équipe africaine ce soir, le Nigeria tenant du titre qui affronte dans le groupe A le Chili. Les États-Unis jouent contre la Croatie et l'Angleterre contre le Brésil.
Et Tim, aujourd'hui en Europe, c'est la troisième journée de la Ligue des Champions.
À cette occasion, Arsenal reçoit le Bayern Munich dans un choc qui conditionne déjà son avenir dans cette compétition où Chelsea et l'AS Rome devront eux aussi ce mardi se relancer respectivement chez le Dynamo Kiev et le Bayer Leverkusen. Barcelone, leader du groupe E, fera face au Bate Borisov de la Biélorussie. Quant aux Croates de Dynamo Zagreb, ils rencontreront les Grecs d'Olympiakos. Dans le groupe G, FC Porto du Portugal sera aux prises avec Maccabi Tel Aviv. Dynamo Kiev tentera de battre Chelsea. Et dans le groupe H, Zenit Saint-Pétersbourg en découdra avec Lyon.
Oui, Tim, Issa Hayatou a présidé sa première réunion du comité exécutif de la FIFA et il maintient au 26 février l'élection à la présidence de la Fédération internationale.
Eh oui, Eric, un communiqué de la FIFA précise à ce propos que la candidature de Michel Platini à la présidence de la FIFA ne serait pas examinée tant qu'il restera suspendu, une suspension de 90 jours qui s'achève le 5 janvier. Platini a fait appel devant la Chambre de recours et a déjà déclaré vouloir saisir le tribunal arbitral du sport en cas d'échec. En attendant, il laisse le champ libre à son principal adversaire de l'heure, le prince Ali de Jordanie.
Et la liste des 23 prétendants au Ballon d'Or 2015 est connue.
Et oui, avec 6 joueurs en course, dont le favori Lionel Messi, mais aussi Suarez et Neymar, Barcelone se place en bonne position. Le Barça est suivi de 2 clubs, le Real et Bayern, qui ont 5 joueurs dans la course.
Merci Tim.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Morgane Guerriec et Eric Manirakiza en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, Morgane, le Congo-Brazzaville.
La tension est montée fortement ce mardi matin entre jeunes et forces de l'ordre dans les quartiers sud de Brazzaville, après l'interdiction d'un rassemblement hostile au référendum de dimanche qui pourrait permettre au président Denis Sassou Nguesso de se représenter en 2016. Notre correspondant dans la capitale congolaise fait état d'au moins 2 morts. 8 personnes au moins ont été blessées, dont 6 grièvement par balles, selon des sources hospitalières. En début d'après-midi, la grande avenue ralliant le centre de Brazzaville à Makelele et au quartier Bakongo, autre théâtre dehors dans la matinée, était jonché de pyramides de pneus incendiés et d'étals renversés. Pour une réaction, Eric Manirakiza, vous avez joint à Brazzaville le porte-parole de la plateforme de l'opposition, Tsomande Ansale.
Le FPI a à plusieurs reprises dit clairement ce qu'il reproche à ce processus électoral qui, du point de vue du FPI, est biaisé dès le départ sur plusieurs éléments. D'abord, le contexte. Après une crise post-électorale comme celle qu'on a connue en 2010, dont les effets sont encore visibles à travers les nombreux prisonniers politiques, dont le premier, le président Laurent Gbagbo, les milliers d'exilés, les traumatismes graves que la population a subis. Tout ça appelle, dans un premier temps, une vraie réconciliation nationale. À ce jour, la preuve a été faite que ça a été un échec, puisque la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a rendu son rapport et le gouvernement refuse de publier les conclusions des auditions des victimes et du rapport. Donc, sur ce point de la réconciliation, l'échec est évident et on ne peut pas aller à des élections alors qu'on a des centaines de prisonniers politiques. Un deuxième point, au plan politique, le code électoral.
Dans nos excuses de ce petit incident technique, c'est c'était donc la Côte d'Ivoire. Vous auriez entendu que en Côte d'Ivoire, le parti de l'ex-président Laurent Gbagbo maintient son appel pour le boycott de l'élection du 25 octobre. Et le Front populaire ivoirien, tendance frondeur, comme on l'appelle à Abidjan Morgan, continue de réclamer des conditions de transparence pour ce scrutin prévu dimanche prochain. Jean-Roger Bion a joint à Abidjan Jean-Gervais Thiédé, chargé des finances au sein du FPI.
Le FPI a à plusieurs reprises dit clairement ce qu'il reproche à ce processus électoral qui, du point de vue du FPI, est biaisé dès le départ sur plusieurs éléments. D'abord, le contexte. Après une crise post-électorale comme celle qu'on a connue en 2010, dont les effets sont encore visibles à travers les nombreux prisonniers politiques, dont le premier, le président Laurent Gbagbo, les milliers d'exilés, les traumatismes graves que la population a subis, tout ça appelle, dans un premier temps, une vraie réconciliation nationale. À ce jour, la preuve a été faite que ça a été un échec, puisque la CDVR, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, a rendu son rapport et le gouvernement refuse de publier les conclusions des auditions des victimes et du rapport. Donc, sur ce point de la réconciliation, l'échec est évident et on ne peut pas aller à des élections alors qu'on a des centaines de prisonniers politiques. Un deuxième point, au plan politique, le code électoral qui a été mis en place en remplacement de celui qui existait à l'époque est un code électoral taillé sur mesure pour permettre au pouvoir actuel de se renouveler. C'est inacceptable. Troisième chose, la commission électorale qui a été mise en place après celle qui a organisé les élections de 2010 et qui se sont soldées par la crise post-électorale, eh bien cette commission électorale, non seulement elle a été confiée au même M. Youssouf Bakayoko, par qui le malheur, on peut dire, est arrivé en 2010, mais en plus, sur un effectif de 17 membres de la commission centrale, le pouvoir s'est taillé 13 membres qui sont à sa solde dans cette commission électorale.
Si le FPI version Laurent Gbagbo a décidé décidé de ne pas y aller, d'autres y vont. Et donc, certainement, on dégage de sérieux de ces élections.
Je peux vous dire que tous ceux qui y vont continuent de dénoncer ça même la commission électorale. Mais continuent de dire aussi qu'ils y vont en espérant que chemin faisant, M. Ouattara va avoir pitié d'eux et va donc revoir la commission électorale. Nous, en tant que parti politique qui a à la base de toutes les avancées démocratiques en Côte d'Ivoire depuis 1990, nous trouvons cela inacceptable. Une commission électorale, c'est l'arbitre de la compétition.
Le boycott est-il la seule solution viable, M. Tchaïdé?
Le boycott a cela de bien qu'il n'en prenne aucun dégât matériel ni en vie humaine. Nous disons aux populations de rester chez elles parce que les dés sont pipés d'avance et qu'on ne peut pas accompagner une parodie d'élection. Maintenant, si le pouvoir accède enfin à notre demande de nous unir autour d'une table de dialogue, demande qu'on formule depuis 2011, eh bien on pourra s'entendre. Depuis toujours, la commission électorale a été l'objet d'un consensus et la liste électorale aussi.
Et nous repartons donc au Congo, au Brazzaville, où je vous le disais tout à l'heure, la tension est montée fortement entre jeunes et forces de l'ordre dans les quartiers sud de la capitale, après l'interdiction d'un rassemblement hostile au référendum de dimanche qui pourrait permettre au président congolais de se représenter en 2016. On écoute donc Tshomambe Anaclé, le porte-parole de la plateforme de l'opposition.
La situation est due au fait que nous sommes en période de campagne. Nous avions demandé l'autorisation de tenir un meeting au boulevard Alfred Raoul. Le préfet nous avait accordé l'autorisation et puis au dernier moment, il a pris un autre arrêté pour refuser de nous accorder l'autorisation de tenir ce meeting. Alors c'est ce qui a désorganisé nos militants. Nous avions pensé qu'il était possible de les réunir à la périphérie. Mais là aussi, le préfet a dit que nous ne pouvons tenir aucune manifestation sur les lieux publics. Alors vous comprenez, dans une ville comme Brazzaville, si on vous interdit les lieux publics, où est-ce qu'on peut y aller? Dans la forêt, je n'en sais rien. Alors c'est ce qui a fait qu'il y a eu des affrontements entre les jeunes et la police ce matin, et ce qui a conduit à la paralysie de l'activité dans toute la ville.
Qu'est-ce que vous demandez à vos militants et aux Congolais en général? Est-ce de boycotter ou d'empêcher la tenue de ce référendum?
Nous allons définir des nouvelles actions, notamment la désobéissance civile. Dans les jours qui viennent, nous allons demander aux populations de ne pas se présenter aux urnes le moment venu.
Dimanche, le 25, il y aura ce référendum sans doute qui va passer. Et comment vous allez vous comporter après?
Mais nous inviterons nos militants à ne pas y participer, c'est tout. Parce que pour nous, c'est une mascarade de référendum. D'abord, il est anticonstitutionnel. Et puis, nous connaissons comment ça se passe, les élections au Congo. La colonel est contrôlée par le ministère de l'Intérieur, donc on ne peut pas s'attendre à une élection juste et transparente.
Est-ce que vous pensez que c'est cette action qui va dissuader le pouvoir à avancer?
Mais vous savez que lorsque le peuple s'oppose à une activité, ça sera difficile de faire un passage en force. On verra bien, mais nous pensons que c'est tout le pays qui sera mobilisé pour s'opposer, pour opposer une résistance à ce passage en force.
Tshomambe Anaclé, porte-parole de la plateforme de l'opposition au Congo, au Brazzaville.
Au Burundi, le ministre de la Sécurité publique, Alain-Guillaume Bougnoni, a affirmé devant l'Assemblée nationale que la sécurité est déjà revenue à 98% dans les quartiers qui contestent le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, à l'exception du quartier Gagara, du quartier 3, donc Gagara, les gens se déplacent sans problème sur toute l'étendue de la République, a assuré le même ministre Bougnoni. Mais pour bon nombre de personnes rencontrées dans la capitale, l'insécurité persiste, comme le rapporte Christophe Nkurunziza à Bujumbura.
Devant un parterre de plus de 100 députés, le ministre de la Sécurité publique est catégorique. Depuis que le président de la République a annoncé il y a 2 mois que les gens doivent remettre toutes les armes, la sécurité est déjà revenue dans quasiment tous les quartiers. Alain Guillaume Bougnoni.
Ceux qui travaillent avec les putschistes se sont cachés dans certains quartiers de Bujumbura, surtout dans les quartiers contestataires, en tirant et en lançant des grenades la nuit. Avant, c'était Musaga, Bwiza, Mutakura, Djabe, Chibitoke et Ngagara. Mais la situation est devenue normale après l'intervention des forces de l'ordre. Aujourd'hui, il ne reste que le quartier 3 de la zone Ngagara où la situation n'est pas encore maîtrisée. Il y a aussi quelques problèmes du côté Kate Chibitoke.
Mais pour de nombreux habitants de Bujumbura qui vivent quotidiennement sous le rythme des coups de feu intermittents chaque nuit et qui voient des corps qui jonchent le matin à certaines rues des quartiers contestataires, l'insécurité persiste dans plusieurs coins de Bujumbura. Cet habitant est inquiet de la situation.
Bah, peut-être il a ses raisons, mais s'il voit peut-être que c'est 90% du territoire national, là on peut le dire. Parce que Bujumbura, ça représente un pourcentage qu'on peut calculer par rapport au reste du pays. Mais d'emblée, les gens disent le cœur du pays, c'est la capitale. Quand le cœur, ça va pas, eh bien, là, c'est la crise cardiaque. Quand il y a crise cardiaque, je ne sais pas si on est bien. Hein. C'est ce que je peux dire pour le moment. Tout à l'heure, je me disais, il y a un nonce apostolique qui disait, si le Burundi est le cœur de l'Afrique, alors l'Afrique, ça ne va pas. Elle a une crise cardiaque. Et je pense que pour le moment, on devrait revisiter cette phrase célèbre.
Le président de l'ADC, Kiviri, Alliance démocratique pour le changement, Léonce Ngendakumana, indique que la situation a empiré depuis l'annonce de Brigué en troisième mandat en avril dernier.
Tant que le président Nkurunziza lui-même est incapable de se déplacer dans le pays, tant qu'il n'est pas dans des instruments de haute protection, tant qu'il continue à circuler dans le pays en fermant les routes, en fermant les magasins, les boutiques pour qu'il puisse passer, tant que Bunyoni lui-même continue à circuler dans la ville, sous haute protection militaire et policière. Vous comprenez quand même qu'il n'y a pas de sécurité. Ça, c'est se moquer des gens.
Depuis le troisième mandat que conteste l'opposition, la société civile, l'Union africaine et la communauté internationale, plus de 150 personnes sont déjà tombées sous les tirs des hommes armés et des forces de l'ordre, selon les Nations Unies. Parmi elles, des policiers dont le nombre exact n'est pas connu. Plus de 200 000 personnes ont déjà fui le Burundi en destination des pays limitrophes. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Gros plan sur la présidentielle de ce dimanche en Côte d'Ivoire. Un scrutin jugé crucial dans un pays marqué par la guerre civile de 2010-2011. Sept candidats tenteront de déloger le président sortant, Alassane Ouattara, qui brigue un second mandat. Ouattara est déclaré favori, mais les jeux sont-ils faits? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum, ce jeudi à 19h TU.
Écrasante victoire des libéraux canadiens aux législatives de lundi, avec à leur tête Justin Trudeau, le fils de l'ancien premier ministre Pierre-Elliott Trudeau. Ils ont remporté 184 des 338 sièges du Parlement, soit une large majorité. Les libéraux mettent ainsi un terme aux 10 ans des conservateurs du premier ministre Stephen Harper à la tête du pays. Pour une analyse, Timothée Donangmaï, adjoint à Montréal, Chika Kanyuri, éditeur et rédacteur en chef du magazine Transatlantique.
Harper, il y a une règle non écrite ici où beaucoup de gens ne dépassent pas 10 ans au pouvoir. Et en fin de compte, lui était à sa 10e année, mais aussi il allait à l'encontre en réalité de la culture politique canadienne et qui voulait d'ailleurs changer, puisqu'il est très lié, par exemple, aux républicains américains. C'est quelqu'un qui a une culture trop liée à la religion, surtout aux protestants, et qui est aussi très lié au milieu du pétrole. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'il est entré en conflit avec le président Obama pour les pipelines Kingston qui devait amener le pétrole de l'Alberta au Texas et que le président Obama a dû mettre son veto puisqu'il disait que les États-Unis n'avaient rien à gagner, ça ne donnait pas beaucoup d'emplois et puis beaucoup de choses. Et c'est comme ça pour aussi le changement climatique. Comme il est très lié au milieu pétrolier, il a sorti même le Canada de l'accord de Kyoto.
Alors que ses adversaires plaidaient pour un budget équilibré, Justin Trudeau, lui, a battu campagne pour un déficit budgétaire visant à relancer l'économie nationale.
Oui, puisqu'il a compris une chose. Il est entouré, Justin Trudeau d'ailleurs. Son avantage, c'est que, comme certains gens le savent, son père a été le premier ministre du Canada il y a 31 ans. Donc, son père avait fait 16 ans au pouvoir, mais 16 ans entrecoupés d'une absence de 6 mois où il avait perdu devant un gouvernement minoritaire. Et finalement, Justin Trudeau, non seulement son père a été il est considéré aujourd'hui comme le père du Canada moderne, puisque les institutions telles qu'elles sont aujourd'hui au Canada datent de lui. Et finalement, Justin Trudeau était aussi à la fin entouré par deux anciens premiers ministres libéraux, dont Jean Chrétien et Paul Martin. Or, il s'est fait que c'est Paul Martin qui a rétabli l'équilibre budgétaire au Canada. Donc, à un certain moment, tous les pays du G7 trouvaient que le Canada faisait modèle. C'est grâce à Paul Martin. Donc, c'est ce même conseil, Paul Martin, qui a donné des conseils à Justin Trudeau, qui lui a dit qu'on est en période difficile. Il y a eu même une récession de quelques mois. Il a dit que ce n'était pas le moment de couper. Il faut plutôt investir dans les infrastructures. Il a dit, comme nous l'avions fait avant, au bon moment, l'économie va démarrer et puis on pourra rééquilibrer rapidement le budget.